Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence West Digital. Pendant une demi-heure, parfois plus, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et de Jean-Sylvain, notre invité, et nous allons vous parler de sécurité lorsque l'on gère les réseaux sociaux d'une marque. Mais alors, comment prendre ses précautions et quelle est la bonne attitude pour sécuriser ses activités en tant que social media manager ? Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode du Pod. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité lorsque l'on gère les réseaux sociaux d'une marque, que l'on soit chez l'annonceur, en agence ou en freelance. Pour aborder ce sujet, je suis avec Brian. Bonjour Brian.
Bonjour Gwen.
Mais également avec notre invité du jour, Jean-Sylvain, qui connaît très bien ce sujet puisque c'est le cœur de son métier, la cybersécurité et la gestion des risques. Je vais donc te laisser te présenter. Jean-Sylvain, c'est à toi.
Bonjour, alors je suis Jean-Sylvain Chavannes, je travaille en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information au CHU de Brest et auparavant j'ai travaillé pendant un peu plus de 6 ans à l'ANSSI qui est donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information et qui est l'autorité nationale en matière de cybersécurité pour les services de l'État et certaines entreprises.
Très bien, merci à toi. Alors, rapidement, pourquoi est-ce que nous avons choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui ? Donc, nous avons choisi ce sujet car, bien qu'il soit un peu anxiogène pour beaucoup ou difficile à appréhender pour d'autres, il n'en reste pas moins important. Les réseaux sociaux sont une excellente source d'information, une façon d'être en contact avec sa communauté et de communiquer pour une marque. Mais si nous ne sommes pas prudents, des incidents peuvent vite arriver, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
D'ailleurs, la majorité des incidents sont le fruit de négligence en interne chez l'annonceur, mais aussi souvent chez les sous-traitants, que ce soit agence ou freelance. Alors voyons ensemble comment prendre ses précautions et adopter la bonne attitude pour sécuriser ses activités en tant que social media manager. Vous vous demandez peut-être en quoi cela vous concerne ? Quel intérêt aurait-on à pirater votre compte LinkedIn ou Facebook ? Quel intérêt aurait-on à accéder au site WordPress de votre client ? On vous explique tout ça dans l'épisode du jour et on vous partage plein d'astuces toutes simples pour protéger votre vie privée et celle de vos clients. C'est parti ?
C'est parti.
Alors, pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus donc, sur le sujet du jour ? Parce que dans l'introduction, je parlais de sécurité, de cybersécurité, de gestion des risques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que ça signifie ?
Oui, alors c'est un sujet qui est très large, donc je vais essayer un petit peu de donner une définition plus concrète pour nous. Alors la cybersécurité, c'est ce qui... Alors déjà, il faut comprendre que c'est un ensemble de mesures techniques et organisationnelles. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas ce périmètre-là juste à des mesures techniques. Il y a aussi des mesures de vie, comme par exemple ne pas afficher des mots de passe dans une salle de réunion parce qu'on pourrait prendre des photos derrière, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas que du technique. Puis après, il y a le côté technique. Et le côté technique, il vise à assurer ce qu'on appelle la disponibilité de l'information, c'est-à-dire le fait que quand on sollicite un site internet, eh bien, que l'information réponde bien, l'intégrité de l'information, qu'elle ne soit pas modifiée par quelqu'un qui n'en a pas les droits. Donc par exemple, aujourd'hui je parle beaucoup de comptes rendus médicaux, mais que dans un compte rendu médicaux, le chiffre 5 ne soit pas modifié par 10, c'est hyper important. Ça c'est l'intégrité de l'information. Et ensuite, il y a la dernière, et qui est quasiment la plus importante aujourd'hui, c'est la confidentialité de l'information. C'est-à-dire le fait que quand on gère les informations pour quelqu'un, qu'elles soient gérées avec confidentialité, et que donc des tiers n'aient pas accès aux informations auxquelles ils n'auraient pas les droits d'accès.
Oui, je pense que, et d'ailleurs, nous, pour les personnes qui nous écoutent, on est plutôt sur ce dernier point, enfin majoritairement sur ce dernier point. Ça ne veut pas dire que les premiers, on les occulte, mais celui-là, c'est celui qui va plutôt nous intéresser. D'ailleurs, je pense que tu me rejoins, mais tous les spécialistes du numérique, quel que soit notre métier finalement, alors nous on se focalise sur les social media managers, mais quel que soit le métier, on se doit d'avoir ça finalement un petit peu dans nos têtes et d'être capable d'adopter les bons réflexes, de pas en faire comme quelque chose qu'on nous demande de faire en plus, mais d'en faire comme une habitude, un réflexe. C'est une forme d'hygiène finalement, d'intégrer finalement l'aspect sécuritaire dans nos pratiques. Et justement, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre pour quelqu'un qui débute sur cette partie-là?
Je pense que c'est une question de bon réflexe que l'on doit essayer d'adopter dès le départ. C'est-à-dire, plus c'est adopté vite, plus c'est adopté tôt, plus derrière ça nous paraît naturel et donc c'est plus simple. C'est sûr que quand on part de loin et qu'on envoie des mots de passe en clair, qu'on a tendance à avoir un carnet de mots de passe ou qu'on a tendance à se dire que la sécurité c'est pas pour soi, oui, la marche peut devenir de plus en plus importante à fur et à mesure où on retarde l'échéance, on va dire ça comme ça.
Ouais, c'est un peu une question d'hygiène. C'est comme si dès qu'on est petit, on apprend à se laver les mains avant d'aller manger. Finalement, après, ça devient une habitude, quoi. Ok.
Et alors, est-ce que les réseaux sociaux sont concernés par ce sujet?
Alors, complètement. Les réseaux sociaux, on pourrait prendre des exemples sur la définition que j'ai donnée précédemment. Si on prend l'intégrité de l'information, c'est le fait que quand vous tweetez une information, que quelqu'un puisse pas arriver derrière pour modifier le tweet. Qui pourrait avoir des implications énormes en termes de réputation, mais en termes aussi d'image pour l'entité que vous êtes amené à gérer. La confidentialité aussi. C'est-à-dire quand vous êtes amené en tant que social media manager à gérer de l'information, à la décanter au bon moment, si finalement elle est publiée avant le planning que vous aviez à gérer, eh bien oui, ça peut avoir un impact sur votre travail. Donc toutes ces informations-là, elles sont importantes à bien gérer, au niveau de la cybersécurité.
Oui, et puis, quand on regarde la manière dont on travaille, au-delà, effectivement, de cette question de ne pas modifier l'information quand un post a été fait, ou s'assurer que l'information ne sorte pas avant qu'elle soit censée être officielle, il y a aussi toute l'organisation qu'on a. Ça va de la gestion des mots de passe avec nos clients, ça va de bien déléguer des accès aux bonnes personnes dans l'équipe, ça va aussi de la sensibilisation de l'équipe qui va travailler sur le projet social media, parce que je pense que c'est important aussi que les utilisateurs qui vont y contribuer soient sensibilisés. Donc au final, oui, ça recouvre quand même beaucoup, beaucoup de situations possibles. C'est pas juste une question qui concerne les professionnels de santé comme ce que tu gères aujourd'hui ou des secteurs sensibles, on pourrait le penser.
Ouais, l'ANSI, ils avaient un slogan, ils ont d'ailleurs toujours un slogan qui était de dire que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Mm. Et c'est pas anodin comme slogan, c'est vraiment l'idée de se dire que la sécurité, c'est une chaîne entière qui concerne tout le monde, du client final jusqu'à ses sous-traitants ou ses partenaires, et que donc il est indispensable que tout le monde respecte la chaîne, puisque si un maillon vient à casser, eh bien, c'est l'ensemble de la chaîne qui tombe.
Très bien. Alors, avant de parler des bonnes pratiques, moi, je me demandais quelles étaient un peu les principales techniques utilisées par ce qu'on appelle les cybercriminels.
Il y en a plusieurs. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit de manière majoritaire, c'est ce qu'on appelle le credential stuffing en anglais, qui est en gros l'usurpation d'identifiants mots de passe. Les attaquants vont en fait essayer de chercher la validité de certains identifiants mots de passe pour ensuite en créer de grosses bases de données et les revendre derrière sur les marchés noirs. C'est une sorte de business. Alors, un des exemples qui a énormément fonctionné durant le confinement dernier, ça a été la revente d'accès à Netflix, Disney+, tous ces services de vidéos en ligne, où en gros, les gens utilisaient des mots de passe qui étaient très faibles, facilement trouvables. Certains attaquants étaient spécialisés dans cette recherche de couples identifiants mots de passe assez faibles, et hop, derrière, ils revendaient ces accès à d'autres personnes qui les achetaient et qui pouvaient profiter du streaming gratuitement. Voilà, une sorte d'écosystème où on pense qu'on n'est pas... Enfin, on pense que son identifiant Disney+, qu'est-ce qu'on en a à faire si c'est un mot de passe fort? Mais en réalité, c'est hyper important parce que derrière, quelqu'un peut très bien usurper votre compte et regarder la télé, les contenus Disney+, en usurpant votre identité, ce qui n'est pas anodin. Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment cette notion de credential stuffing qui est assez forte puisqu'on voit vraiment que ça intéresse les attaquants. Il y a un business derrière qui est de plus en plus fort. Et ensuite, ces identifiants mots de passe peuvent servir aussi à faire du rebond. C'est-à-dire si, par exemple, avec vos clients, vous êtes amené à utiliser des VPN, par exemple, les identifiants mots de passe de VPN, sont revendus derrière, et derrière on peut se faire passer pour le sous-traitant auprès du client final et réaliser des actions à son insu.
Client voilà. qui nous fait confiance, donc forcément il ne va pas se poser la question.
C'est ça.
Est-ce que tu peux juste dire ce que c'est qu'un VPN ?
Pardon, oui, un VPN, c'est un Virtual Private Network, c'est ce qui permet en fait d'accéder au système d'information de son client final depuis un site extérieur, depuis Internet. C'est-à-dire qu'on n'expose pas toutes ces applications métiers ou ces informations, hein, ça peut être des dossiers de partage Windows par exemple tout simplement, mais qui sont protégés derrière un VPN pour justement restreindre l'accès à ses partenaires. Mais en fait, ça devient un faux sentiment de sécurité à partir du moment où les identifiants mot de passe sont fuités malheureusement.
Mmh. Et du coup, oui, l'usage des VPN s'est beaucoup développé avec le confinement, le développement du télétravail, etc. Donc il y a effectivement une vulnérabilité qui est plus importante sur cette partie-là aussi.
Exactement.
Alors il y a un aspect qui est intéressant dans ce que tu disais sur la première partie, sur le credential stuffing, si je peux le dire comme ça, c'est qu'en en fait, on se rend compte aujourd'hui, si je comprends bien, que c'est pas parce qu'on se fait pirater que quelqu'un nous en veut. En fait, finalement, il y a pas. C'est pas forcément un acte de malveillance, parce que nous, on entend souvent quand on va recommander des actions à nos clients pour mieux se protéger. Oh ben, oui, mais qui peut bien nous en vouloir ? Personne va nous pirater, franchement. Ou alors, j'ai rien à cacher. On entend souvent cette réponse-là. Voilà.
Ce à quoi je réponds, est-ce que vous habiteriez dans un appartement rempli de verre, sans mur opaque ?
Ouais, où on voit toute la journée.
Voilà, exactement. On n'a pas forcément envie d'exposer, même si on n'a rien à cacher, ça ne veut pas pour autant dire qu'on a envie de s'exposer. Mm. Et d'ailleurs, c'est un peu l'adage de la cybersécurité, c'est de communiquer sans s'exposer. Mm. C'est ce qu'on disait par rapport à ça. Pour revenir sur ton premier sujet, c'est aujourd'hui 90% des attaques ne sont pas liées à l'identification d'une personne. C'est lié justement à sa mauvaise utilisation d'un système d'information. Donc, si on prend une analogie assez simple, c'est qu'aujourd'hui, les attaquants se trouvent dans une ville, et vous, vous avez une maison. Ce que vont faire les attaquants, c'est qu'ils vont tester toutes les poignées de porte de chaque maison, et voir s'ils peuvent y rentrer. S'ils peuvent y rentrer, ils n'y rentrent pas. Ils vont concaténer ces informations en disant « On peut rentrer dans cette maison, on vous revend l'accès à un autre groupe d'attaquants qui va en faire ce qu'il veut ». Ça peut être du vol d'objets, ça peut être plein de choses. Mais voilà, on sent qu'il y a cette distinction entre les différentes actions. Et donc, si on utilise des mots de passe faibles, c'est comme si on utilisait une poignée, en fait, enfin une
porte. On ne ferme pas sa porte, quoi.
On ferme pas sa porte. Et donc, du coup, les attaquants disent, on peut rentrer dans la maison 1, 3, 5, etc. Allez-y, faites ce que vous voulez dans ces maisons-là, derrière.
Mais ce n'est pas pour autant qu'on t'en veut à
et
toi.
Et ce n'est pas pour autant qu'on regarde ces messieurs un tel sur la sonnette de la maison. Ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent juste voir, c'est s'ils ont accès ou pas à la maison.
Ouais, donc ce n'est pas ciblé sur des personnes, des organisations. Enfin, ça l'est encore parfois dans certains secteurs. Mais comme tu dis, dans la majorité des cas, 9 cas sur 10 à peu près, c'est plutôt aléatoire. C'est-à-dire qu'on va tester toutes les poignées de porte, puis la première qui s'ouvre, on sait qu'on peut potentiellement revendre l'accès pour des personnes qui ont des activités plutôt douteuses.
C'est ça. Donc ils vont trouver les accès, et puis derrière ils vont les revendre, et puis ils vont dire, tiens, finalement ces accès, ils donnent accès à une entreprise hyper connue. Mmh. Ah, si c'est une entreprise hyper connue, peut-être qu'on va utiliser ces accès-là pour réaliser des cyberattaques plus, compromettantes pour les données qui sont hébergées. Et là, effectivement, ça devient une attaque ciblée. Mais dans un premier temps, en général, c'est pas du tout une attaque ciblée. C'est juste des mauvais usages qui font qu'on devient vulnérable.
Tout ça, ça fait un peu peur quand même. Hein. Non, mais bon, c'est intéressant parce que... Gwen t'en parlait en introduction. En fait, des fois, quand on aborde ce sujet avec nos clients... Ils nous disent tout le temps, ça ne nous concerne pas, ou bien c'est très anxiogène, ça leur fait un peu peur. Ils disent, ouais, mais bon, quand même, ça paraît être une montagne, en fait. Et du coup, alors qu'en fait, finalement, il y a des optimisations techniques qui sont peut-être un peu plus lourdes, mais dans les faits, déjà, le premier rempart, les premières choses à mettre en œuvre, ne sont pas si compliquées que ça. Enfin, voilà, quand on fait le point, c'est quand même pas très compliqué. Alors, justement, si on veut se lancer, par quoi on commence ? Enfin, voilà, quels sont les bonnes pratiques de base, les choses un peu essentielles qu'il faut être capable de mettre en œuvre pour bien se protéger quand on gère la présence d'une marque sur Internet.
Alors, d'abord, pour répondre à ton premier point, le côté anxiogène, c'est là-dessus, je réponds souvent que c'est souvent parce qu'on ne maîtrise pas ou on n'est pas éveillé sur le sujet. Si on sait comment ça fonctionne... On peut tout de suite se dire que l'utilisation de simples bonnes pratiques permet de se protéger de 80% des attaques, ce qui n'est pas négligeable. Donc l'objectif, c'est de se dire, bah, si on respecte les bonnes pratiques, et l'ANSSI a sorti un guide sur les 12 bonnes pratiques de la sécurité numérique, on peut contrer la plupart des cyberattaques. Ça passe par exemple, pour être très concret, on a parlé des mots de passe. Évidemment, les mots de passe, c'est quelque chose que l'on doit gérer de manière assez rigoureuse. On ne peut pas se permettre de mettre le même identifiant, le même mot de passe, puisque c'est la première chose que les attaquants vont tester. Si on se met dans la peau des attaquants, c'est assez facile. Hein. On teste les mêmes identifiants mot de passe, on va tester les dates de naissance, qui sont accessibles via les réseaux sociaux. Ça, c'est du, pour le coup, c'est du vécu et ça marche très bien. Les villes de naissance, les codes postaux. Bref, on retrouve des patterns, des gabarits.
Des logiques,
en fait. Logiques, ouais. Qui font que derrière, on peut faire tomber la plupart des, oui, mots de passe assez rapidement. Donc déjà, si on se dit qu'on ne doit pas faire ça, bah, on se protège déjà d'une grande partie des attaques. Après, il y a assurer la confidentialité des données. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en photo des informations confidentielles. Si on prend en photo des informations confidentielles, derrière, elles sont envoyées sur les clouds de nos différents téléphones. Elles peuvent devenir accessibles par Internet et donc, par essence, devenir une porte d'entrée. Il y a aussi maîtriser les logiciels qu'on installe. Ne pas tout de suite se jeter sur les premiers logiciels qui sont gratuits et qui vont vous permettre de faire tout et n'importe quoi et parce que vous voyez un bandeau publicitaire. Voilà. L'autre grande menace qu'on voit régulièrement aujourd'hui et qui servent d'ailleurs à faire du credential stuffing, et ça je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est les mails de phishing. Ouais. On en reçoit de plus en plus. On vous invite en vous disant votre prestataire ou votre partenaire vous demande de changer votre mot de passe, merci de cliquer sur le lien suivant, rentrer identifiant mot de passe. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez ces identifiants mot de passe là, et en fait derrière ces deux données là sont envoyées aux attaquants qui vont les concaténer, les mettre dans une base de données et les revendre par la suite. Voilà. Ouais. Tout ça rentrer dans ce cercle.
Alors justement, moi j'avais vu l'autre jour sur Instagram, une créatrice que je suis a partagé en story quelque chose qui lui est arrivé. Et c'est un petit peu dans ce style-là. Et donc je vais raconter rapidement ce qui lui est arrivé pour que tu puisses nous dire justement comment est-ce qu'on pourrait faire attention avec ce genre de choses. Donc en fait, c'est une créatrice qui partage la majorité de son contenu sur Instagram pour valoriser donc ses produits. Et puis donc un jour elle reçoit un message d'un compte Instagram, donc le nom du compte c'était Instagram Support, c'était un compte certifié, qui lui envoie un message en lui disant « Attention, quelqu'un a tenté de se connecter à votre compte, veuillez cliquer sur ce lien pour vous reconnecter du coup ». Donc elle suit le truc, elle remet son identifiant, son mot de passe, et puis là, une fois qu'elle avait mis son identifiant, son mot de passe, ça lui affiche un message comme quoi, genre, elle avait été dégagée de son compte Instagram, qu'elle n'y avait plus accès et qu'elle avait perdu toutes les données. Donc effectivement, elle se reconnecte à Instagram via le téléphone d'une amie et elle voit que tout son compte Instagram a été supprimé avec toutes ses créations qu'elle avait postées depuis plusieurs années. Donc là, c'est la catastrophe. Elle ne sait pas quoi faire. Et plus tard dans la journée, un mec la contacte via WhatsApp, il me semble, pour lui dire « Salut, je m'appelle John. C'est moi qui ai piraté ton compte Instagram. Donc tu peux le récupérer, mais contre de l'argent. » Donc au final, elle l'a fait parce qu'apparemment, c'était pas un montant très élevé. Et du coup, elle a partagé ça sur Instagram pour justement sensibiliser et dire bah, attention, comme quoi moi j'ai eu confiance parce que c'était un compte Instagram support qui était certifié, donc je pensais pouvoir faire confiance et en fait, bah, je me suis fait avoir.
Mais c'est hyper intéressant comme anecdote. Je connaissais pas du tout le principe et en fait, on retrouve le même mode opératoire que moi je vois plus classiquement en cybersécurité, qui est l'accès aux données de logiciels métiers, on les chiffre pour demander une rançon en échange. Eh bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va se connecter à un réseau social qui est le métier, enfin l'outil métier de cette personne. Et derrière, il va supprimer les données et lui demander une rançon pour les retrouver. Mmh. C'est ça.
Ouais.
Mmh. Ah, c'est incroyable.
Et en plus, elle a demandé à ce mec, elle lui a dit, mais pourquoi moi ? Et il lui a dit, en vrai, c'est pas toi, je fais ça tous les jours avec des dizaines de comptes.
Ah, c'est le principe de la porte qui s'ouvre. C'est la porte qui s'ouvre, ça fonctionne. C'est pas ciblé contre cette personne-là, c'est...
Non, c'est, elle a sûrement dû utiliser un mot de passe qui était très faible, ou... Alors, il y a les mots de passe qui sont très faibles, ou alors, et c'est ça le petit danger qu'on n'a pas évoqué, c'est la réutilisation des mots de passe. Ouais. On peut se dire que son mot de passe est fort, pas de problème, il respecte les bonnes pratiques, néanmoins, on l'a donné, par exemple, alors je vais citer LinkedIn, parce que LinkedIn a été victime d'une grosse fuite de données il y a quelques années, et même les mots de passe forts, en fait, ont été publiés. les attaquants s'en servent et derrière retestent ça derrière. Donc si cette personne-là a utilisé le même mot de passe que sur une base qui a déjà fait l'objet d'une fuite de données, Canva d'ailleurs récemment a fait l'objet d'une fuite de données.
Facebook tous les 6 mois.
Et bien dans ce cas-là, elle devient vulnérable à ce type d'attaque-là et c'est malheureux pour elle.
Ouais, du coup, ça pose quand même la question de la gestion des mots de passe. Souvent, on réduit aussi la sécurité à ça. Ça fait partie des aspects pour se protéger. Et ce que tu dis, c'est que finalement, un mot de passe fort, bon, c'est essentiel. On pourra reparler d'ailleurs de ce que c'est qu'un mot de passe fort. Mais finalement, le mot de passe, il doit être aussi unique. C'est quand même vite l'enfer pour les personnes qui travaillent dans le numérique de se dire j'utilise une cinquantaine d'outils dans ma semaine, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai 50 mots de passe forts différents, ça peut vite devenir très très compliqué. Qu'est-ce que tu réponds à ce type d'objection ?
Je comprends ce type de... C'est vécu comme étant un frein en fait au métier et la sécurité ça ne doit jamais être vécu comme un frein. Alors ce qu'il faut c'est l'adapter à notre contexte métier. Si effectivement on est amené à utiliser par exemple des outils web très régulièrement, il existe des gestionnaires de mots de passe qui génèrent des mots de passe aléatoires, donc qui ne font pas partie de dictionnaires, et qui derrière l'enregistrent et le rentrent à votre place dans votre navigateur, dans vos applications métier, etc. Donc là on a un gestionnaire de mots de passe qui permet de faire ça, qui centralise un peu tout. Donc ça, c'est le bon début, on va dire, par rapport à ça.
Est-ce que tu pourrais conseiller des gestionnaires de mots de passe ?
Alors, il y a un gestionnaire de mots de passe qui est certifié par l'ANSI. Donc c'est-à-dire qu'on a analysé la robustesse de son algorithme qui permet de générer les nouveaux mots de passe, parce que c'est aussi ça la force de ce gestionnaire-là, qui s'appelle KeePass, mais qui n'est pas le plus user-friendly. C'est un peu austère.
Voilà. C'est en local d'ailleurs.
C'est
sur ordinateur. Voilà. Donc, on ne peut pas l'avoir sur son téléphone par exemple.
On ne peut pas l'avoir sur son téléphone facilement. Enfin voilà, c'est pas hyper, hyper intuitif. En revanche, il y a d'autres éditeurs qui se sont lancés sur ce créneau-là. D'ailleurs, on voit même que les antivirus se lancent sur ces créneaux-là. Il y a un français qui est Dashlane. Que moi j'utilise d'ailleurs pour information.
Qu'on utilise aussi à l'agence.
Voilà. Donc qui permet de stocker ses mots de passe sur son téléphone, sur ses ordinateurs, etc. Donc c'est très utile, très simple, qu'on peut partager même des mots de passe.
Ces mots de passe, rassure-moi, ils sont chiffrés, enfin ils sont pas en clair.
Ils sont stockés, ah oui, bien sûr, ils sont stockés de manière chiffrée sur leur base et même eux n'ont pas accès à nos mots de passe. C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose. Et pour tous ceux qui vont dire, bah, du coup, on met tous les œufs dans le même panier, moi, je réponds que c'est mieux d'avoir cela en termes de risque, de gestion du risque, que d'avoir le même mot de passe sur l'ensemble des services. On réduit le risque de manière drastique. Donc, il y a ça. Et pour les applications les plus critiques, on le voit dans le système bancaire, par exemple, mais je vois que Facebook commence à s'y mettre. Je pense que les autres réseaux vont suivre, puisque derrière, il commence à y avoir de l'argent qui est géré, de par les Facebook Ads, etc. Ça va être la double authentification. C'est-à-dire de se dire, le mot de passe ne suffit plus pour prouver votre identité. Dans ce cas-là, il faut une authentification qui est dite forte. Alors, une authentification forte, c'est trois facteurs. Enfin, c'est un mélange de trois facteurs. C'est ce que je sais, le mot de passe, ce que je suis, c'est en général le biométrique, le visage avec les téléphones, ou alors ce que je possède. Et ça peut être le téléphone en tant que tel. C'est pour ça que des fois, on vous envoie un token via texto ou via d'autres applications comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Il y en a d'autres qui existent sur le marché pour faire justement ces tokens un peu aléatoires. Ce qui fait que quelqu'un qui est à l'autre bout du monde ne peut pas se connecter à votre Facebook Ads s'il n'a pas ce téléphone-là à côté de lui.
D'ailleurs, on a le cas justement par rapport à Facebook, puisque en fait, depuis cet été, si on gère un business manager où il y a du coup des moyens de paiement qui sont enregistrés, ce qui est notre cas à l'agence, on gère des dizaines de comptes publicitaires pour nos clients, avec leurs moyens de paiement d'ailleurs. Facebook, maintenant, interdit l'accès au business manager à un compte si ce compte n'a pas activé la double authentification. Ce qui est plutôt rassurant en soi, puisque finalement, le mot de passe ne suffit plus. Alors bien sûr, on a chacun et chacune des mots de passe uniques et robustes pour Facebook, mais du coup, on a une deuxième couche où on va nous demander de nous authentifier pour bien préciser que c'est bien nous qui cherchons à se connecter au business manager, ce qui est plutôt rassurant pour nous, puis même vis-à-vis de nos clients, mais ce qui n'est pas sans poser de problème. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, là d'ailleurs récemment, pour un client qui ne pouvait plus accéder à son business manager parce qu'il n'avait pas activé la double authentification et parce qu'il ne pouvait pas le faire. Parce qu'en fait, cette cliente en question n'avait pas de téléphone professionnel. Et donc, ça soulève quand même d'autres questions d'organisation. Alors bien sûr, comme tu dis, il y a des apps aussi qui permettent de générer des codes aléatoires au-delà du SMS. Mais c'est, voilà, c'est vrai que ça crée quand même des freins dans la relation qu'on peut avoir quand on gère les réseaux sociaux d'une marque.
Après, ces freins-là, ils sont corrélés aussi au risque qu'il y a derrière. Et le risque de piratage de ces comptes-là, il est devenu tellement grand que du coup, ils sont obligés de réagir en mettant en place de nouvelles mesures. L'histoire du texto, c'est malheureux, mais normalement, l'éditeur est censé vous proposer, soit on vous envoie par mail le code, soit par texto, enfin par SMS, pardon, soit alors par des liens magiques aussi. Oui. Il y a aussi ce nouveau type d'authentification qui fait qu'on va se passer du mot de passe. Alors le lien magique, c'est par exemple quand vous cherchez, il y a des services web maintenant, où quand on cherche à s'authentifier, on ne remplit plus login mot de passe, on remplit l'adresse mail. Une fois qu'on a rempli l'adresse mail, il va nous envoyer un magic link par mail. On clique dessus, on est directement authentifié dans la plateforme.
Bon, alors, il faut quand même que la boîte mail soit bien sécurisée.
Il faut quand même que la boîte mail soit bien sécurisée. On fait un petit peu déplacer le problème, mais en termes d'utilisation et de sécurité, eh bien, on contre l'attaque du credential stuffing via ces liens-là.
Ouais.
Donc déjà, ça, c'est énorme. Et rien que pour les plateformes web aussi, c'est énorme, c'est credential stuffing, parce que du coup, ils ont plein de connexions qui viennent tester des logins mot de passe pour lesquels ils disent ça marche pas. Et pour eux, c'est du trafic réseau aussi à gérer. Enfin, voilà, c'est pas anodin en termes de coûts derrière. Donc, ils contrent cette attaque-là. Et en plus de ça, ils permettent d'avoir une sorte de côté intuitif quand on se connecte. C'est-à-dire qu'on n'a plus à chercher son téléphone, son app, son machin. Non, c'est un simple lien qui est envoyé par mail.
Alors, bon, ça soulève quand même la question de sécuriser sa boîte mail. Est-ce qu'on peut juste dire en deux mots un bon mot de passe, c'est quoi ? Parce que bon, on entend plein de choses. Concrètement, si tu dois recommander à quelqu'un d'utiliser un mot de passe, d'en faire un unique et robuste, qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne ?
La première chose, c'est que le mot de passe ne doit pas être contenu dans un dictionnaire. Ça, c'est la première chose. T'as un dictionnaire multilingue. C'est-à-dire qu'un mot anglais ne sera pas un bon mot de passe. Un des mots de passe, d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé dans les top 10 des mots de passe les plus fuités aux États-Unis, c'était Let Me In, ce que je trouvais pas mal quand même en matière de gestion de mots de passe. Donc il ne doit pas être dans un dictionnaire. Il ne doit pas être prédictible. Prédictible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le code postal de la ville où vous habitez, le nom de la ville plus le code postal. Voilà.
Ou le nom de tes enfants et leur date de naissance.
Voilà,
c'est ce que font tous nos clients.
Exactement. Hein. Voilà. On est d'accord, là-dessus, c'est pas idéal. Pas que tes clients, je te rassure.
Ouais.
Donc, il ne doit pas être prédictible. Bon, ça va quasiment de soi. Et après, il doit respecter une certaine typologie, on va dire ça comme ça. Alors, certains vont dire qu'il faut qu'il soit avec des caractères majuscules, minuscules, des chiffres, des caractères diacritiques, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que ça devient complexifier la chose inutilement. Aujourd'hui, un bon mot de passe sera plutôt un mot de passe qui va être long. Donc, ça peut être, par exemple, plusieurs mots que l'on va séparer avec un caractère diacritique, comme les deux points ou comme un point-virgule. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir forcément une majuscule ou une minuscule, mais il faut qu'il soit long. La longueur va plutôt attester de la robustesse par rapport à sa complexité. Voilà.
Ce qui le rend peut-être plus facilement mémorisable s'il est long, c'est une phrase qu'on retrouve. Enfin, une phrase par définition, on l'a pas dans le dictionnaire. C'est un ensemble de mots. Donc du coup, ça le rend un peu plus complexe.
C'est ça. Okay. Donc vraiment, l'idéal, ce serait de se dire, on a un gestionnaire de mots de passe qui génère des mots de passe. Donc moi, par exemple, je ne connais pas mes mots de passe. Je ne les connais pas. Je ne peux pas les connaître parce qu'ils sont gérés par un gestionnaire.
Ouais.
Et que le mot de passe maître qui permet d'accéder à ces mots de passe-là est un mot de passe long, par définition, qui, du coup, assure la sécurité. Parce que toute la sécurité de mes mots de passe, en fait, réside dans le mot de passe maître qui me permet d'accéder à cela.
Et alors, malgré le fait d'avoir un gestionnaire de mots de passe, des mots de passe bien choisis, etc., est-ce que du coup, quand on choisit un mot de passe aussi compliqué soit-il, on est tranquille pour toute la vie ?
Alors non, c'est-à-dire que c'est un peu le côté dommage, et on voit que les éditeurs d'ailleurs commencent à réagir par rapport à cela, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à un site qui va être victime d'une fuite de données, où sa base d'identification va fuiter, donc le couple login mot de passe, les attaquants vont s'en servir. C'est-à-dire les mots de passe hyper complexes, ils vont quand même les concaténer dans des bases de tests. Derrière, ils vont essayer d'accéder à Netflix, Disney+, etc. Donc là, l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on suive un petit peu l'actualité. C'est-à-dire de se dire, s'il y a une fuite de données sur Canva, oui, on utilise Canva. Donc tout de suite, le premier réflexe, c'est de changer le mot de passe Canva. Là, vous allez dire, waouh, comment est-ce qu'on suit l'actualité? C'est pas toujours facile, et puis c'est pas notre métier, donc comment on le fait? Eh bien, on voit que les éditeurs commencent à justement faire ce travail-là. Alors, les éditeurs de solutions de gestion de mots de passe, j'entends, comme par exemple Dashlane, mais d'autres, hein, 1Password, etc., vont vous informer que vous avez un compte Canva et que celui-ci a pu faire l'objet d'une compromission, donc changez-le. Et là, vous êtes notifié par votre gestionnaire de mots de passe. Il fait ce travail-là pour vous. Ce qui est quand même un soulagement, on va dire, intellectuel assez fort, de se dire qu'il y a ça qui est mis en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on réduit le risque à 100%, mais on le réduit à 98%.
Oui, c'est clair.
On a eu le cas en début d'année là, pour Facebook. Parce qu'il y a la moitié, je crois que c'était la moitié des comptes français qui...
Qui ont fait l'objet d'une fuite. Et puis derrière, ils ont vu. Mais Instagram aussi, hein, au final. Donc, c'est pas anodin comme type de recommandation. Et le fait de se dire, on arrive le lundi matin et on a l'alerte, on le change, ça nous prend 45 secondes, peut-être une minute. Et derrière, c'est bon, on a réduit le risque. Par contre, si on repousse, forcément, ça veut dire qu'on laisse du temps aux attaquants pour faire cette attaque-là.
On procrastine, on verra ça plus tard, on a la flemme de changer de mot de passe. Et du coup, jusqu'au jour où ça arrive. Ok. J'ai une autre question par rapport au mot de passe, puis après on va peut-être aller sur d'autres aspects, mais nous on a souvent le cas, et je pense que les gens qui nous écoutent ont le cas aussi, on a des clients qui nous envoient leur mot de passe, parce que on a besoin certaines fois d'avoir des mots de passe, même si bien souvent on va préférer des délégations quand c'est possible, on va préférer une délégation sur une page avec notre profil quand c'est possible, mais pour certains comptes, comme Twitter par exemple, on ne peut pas avoir de délégation, même si effectivement il y a des moyens de contourner. Donc fatalement, parfois on est obligé de récupérer les mots de passe de nos clients, et il nous les envoie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, clairement, envoyer un mot de passe dans un mail, c'est pas hyper sécurisé. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour sécuriser un peu les échanges?
Alors, la première bonne pratique, c'est, effectivement, comme tu l'as un peu évoqué, c'est de ne jamais mettre dans un même message, que ce soit texto, mail, ou voire papier, l'outil, l'URL de l'outil, donc son adresse, et le mot de passe, avec l'identifiant. C'est-à-dire, si vous mettez toutes les informations dans le même message, là, c'est vulnérabilité critique, parce qu'il suffit qu'un attaquant tombe là-dessus, et il sait exactement ce à quoi se connecter, où se connecter, et avec quel identifiant mot de passe se connecter. Donc la première chose, c'est de dire, oui, on va vous envoyer les identifiants en Twitter, et puis par derrière, envoyer un SMS avec juste un mot de passe, sans dire ce à quoi il correspond.
Sans le contextualiser.
Sans le contextualiser. En disant, ce que je vais vous envoyer, c'est le mot de passe Twitter. Comme ça, si un attaquant ou quelqu'un qui a les yeux qui se baladent un peu tombe sur le mot de passe, il ne va pas savoir à quoi ça sert. Donc, est-ce qu'il aura vraiment intérêt à essayer de chercher à quoi sert, etc. Non, ça va être complexe, ça va lui prendre du temps, ça va être ennuyeux, donc il ne va pas le faire.
Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on a vraiment la notion de réduire le risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque zéro, mais l'idée, c'est vraiment de le réduire au maximum et de d'essouffler la personne qui essaie d'ouvrir notre maison. Ça ne marche pas, bon, il va passer à une autre qui, elle, sera probablement ouverte.
Et c'est exactement le principe de la gestion du risque en se disant, il faut que le gain espéré par l'attaquant soit inférieur à l'énergie qu'il va dépenser pour l'attaque.
Ok.
Et est-ce que c'est pas risqué d'envoyer un mail à quelqu'un en disant voici mon identifiant pour tel truc, et de dire je t'envoie le mot de passe par texto, et par texto de recevoir le mot de passe? Il y a pas moyen de les cyberhackers ne savent pas faire le rapprochement?
Non, en fait, ils n'ont pas intérêt à le faire. Ça leur prend du temps. Donc, ce qui dit prendre du temps coûte de l'argent. Et ils sont vraiment dans une logique de rentabilité.
Je demande ça parce que maintenant, de plus en plus, sur les plateformes, notamment de réseaux sociaux, on nous demande aussi nos numéros de téléphone partout. Du coup, je me dis, ils ont notre mail, notre numéro de téléphone, et d'échanger comme ça par mail ou par texto, ils peuvent faire facilement le rapprochement.
C'est certain. Après, attaquer le réseau GSM est pas du tout, on va dire, aussi accessible, aussi trivial que attaquer Internet avec toutes les portes d'entrée qu'on connaît. Donc, ça va leur coûter plus cher, ce sera pas facile. Eux, ils cherchent la simplicité.
Okay.
Ils cherchent vraiment, vous utilisez le même login mot de passe, voilà, ça c'est la simplicité. Vous utilisez des patterns connus, vous utilisez des coupes qui ont déjà fuité, ça voilà, ça c'est la simplicité pour eux. En gros, il y a un retour sur investissement qui est énorme. Dès que ça demande un peu plus d'habilité, on passe dans l'autre catégorie qui est la catégorie des attaques ciblées.
Ouais.
Et ces attaques ciblées, elles ont une occurrence qui est beaucoup plus faible, mais par contre, elles ont un impact qui est beaucoup plus fort. Et il faut se dire que nous, quand on cherche à gérer les réseaux sociaux, le côté présence web, etc., on cherche d'abord et surtout à contrer les attaques, ce que moi j'appelle les attaques indifférenciées, c'est-à-dire le tout venant.
En fait, c'est une question de dimensionnement par rapport au client. Une TPE locale qui n'est pas sur un marché sensible, on va lui donner les bonnes pratiques de base pour essayer justement de faire en sorte que la porte soit fermée et que l'attaquant passe à la prochaine porte. Alors que demain, si on travaille avec le gouvernement, par exemple, là, on va rajouter finalement une étape supplémentaire où on va effectivement peut-être ne pas envoyer le mot de passe par SMS et trouver des alternatives un peu plus complexes. C'est une question de dimensionnement.
C'est exactement ça. C'est une question de gestion du risque. Mmh. On voit que la menace est plus importante, par exemple, sur des secteurs qui sont très... qui sont très touchy. On prend l'exemple nantais bien connu de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, c'était un secteur qui était touchy. Donc on se disait, on va peut-être mettre en place des mesures supplémentaires de sécurité par rapport aux bonnes pratiques parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est attendu et qui peut avoir un impact important. Et que les capacités des attaquants sont assez fortes. Pour une PME qui fait la menuiserie ou des choses comme ça, oui, l'attaque est possible parce qu'il va ne pas respecter les bonnes pratiques. Mais pour le reste, il y a quand même peu de chances qu'il soit victime d'une attaque ciblée de la part de pays tiers.
Ça marche. Alors, est-ce qu'on pourrait récapituler un petit peu ou compléter avec donc les conseils et les astuces toutes simples à mettre en pratique ?
On va essayer. Je pense que la première chose, c'est de bien gérer. Bon, les mots de passe, on en a parlé, de savoir comment ils doivent-ils être et être gérés, surtout. Derrière, il y a aussi des principes très simples, mais comme la mise à jour. Les mises à jour des logiciels que vous êtes amené à utiliser. Alors, vous utilisez sûrement beaucoup d'outils SaaS, donc Software as a Service. Donc là, c'est l'éditeur qui s'occupe de faire la mise à jour. Pour vous, c'est transparent, vous ne voyez rien. Mais pour les logiciels clients que vous pouvez être amené à utiliser, les mettre à jour, ce n'est pas que du cosmétique. L'éditeur veut vous dire on va changer la barre grise par une barre noire, ça va être génial dans la nouvelle mise à jour, mais en fait derrière il va corriger énormément de vulnérabilités que vous ne voyez pas parce que l'éditeur n'a pas trop intérêt à communiquer dessus. Mais ces mises à jour là sont importantes, donc il y a les mises à jour, il y a attention aux données qu'on est amené à échanger, tout simplement, je pense que déjà si on respecte ça, on se protège d'une bonne partie des cyberattaques qu'on peut voir aujourd'hui sur arriver.
Et alors, à l'inverse, les erreurs à ne pas commettre, les fausses bonnes idées, quoi.
Alors, les fausses bonnes idées... Alors, je parle encore une fois de ce que je connais. Je ne sais pas si ça s'applique vraiment à votre contexte, mais j'ai vu, par exemple, des posts où on disait « Oui, il y a un antivirus. » Ok, super, il y a un antivirus, donc tout va bien. Sauf qu'en fait, l'antivirus n'était pas mis à jour depuis plus de 5 ans. Donc là, il y a le faux sentiment de sécurité. On se dit, c'est bon, on a un équipement de sécurité, on est safe. Mais en fait, derrière, pas du tout, puisque il n'y a pas de base, ils n'ont pas payé la licence, donc il n'y avait plus de mise à jour. Et en fait, les virus qui étaient sortis depuis 5 ans, ils étaient vulnérables. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment les choses à ne pas faire.
L'erreur, en l'occurrence, c'est peut-être aussi de ne pas vérifier.
Et l'erreur était clairement de ne pas vérifier, puis surtout de se dire, on n'a pas le budget pour renouveler la licence. On va dire, on l'a acheté telle année, c'est bon, ça va marcher, quoi. Donc, non.
Est-ce que le fait de tout mélanger, le pro, le perso, ça peut être aussi une erreur
C'est un vrai sujet touchy. L'ANSSI s'est prononcé en disant c'est à prohiber, c'est vraiment à interdire, parce qu'il y a trop il pourrait y avoir un trop grand risque de porosité entre des logiciels qu'on pourrait être amené pour notre utilisation perso. Je pense parfois des jeux vidéo piratés, par exemple, même si c'est pas bien. Et derrière, en fait, ces jeux-là peuvent introduire des virus, des vulnérabilités, etc., qui vont derrière avoir un impact sur le travail, sur les données qui vont être exfiltrées, ça va être des données pro et non plus des données perso, etc. Donc là, on voit qu'il y a une vraie porosité qui peut avoir lieu à partir du moment où on utilise le même ordinateur, par exemple pour du pro et du perso. Ouais. C'est-à-dire si on demande l'ordinateur, si les enfants demandent l'ordinateur des parents qui est l'ordinateur pro pour installer des jeux, etc., là, on commence à arriver sur des domaines qui commence à devenir avec un risque un peu trop élevé. Voilà.
Donc, il faut vraiment cloisonner les usages.
La meilleure pratique, c'est de cloisonner les usages. Tout à fait. Pareil pour les téléphones. On ne rentrera pas dans les détails, mais il peut y avoir des attaques sur les téléphones portables liées, par exemple, à des téléchargements d'applications. Vous êtes dans un salon professionnel, vous scannez le QR code à l'entrée qui vous dit « Télécharger telle application pour avoir les informations sur les stands, etc. » Vous êtes avec votre téléphone perso. Hop, vous installez l'application, qui est en fait une application verrouillée. Et derrière, c'est toutes vos données perso qui disparaissent. Voilà. Mmh. Donc, il y a cette porosité-là qui est dangereuse. Et donc, on augmente la surface d'attaque. Donc, on augmente le risque par essence.
Donc, une bonne pratique, c'est de cloisonner, d'avoir un téléphone pro, un téléphone perso. Son ordinateur pro, on s'en sert que pour le pro. Et,
c'est ça. Avec une notion aussi qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, avec les smartphones, on a quasiment plus de données sur notre téléphone que sur notre PC de travail. Et aujourd'hui, on met moins de mesures de sécurité sur ces téléphones-là que sur nos outils de travail. Donc forcément, à un moment, les attaquants vont se déplacer vers le truc le plus simple. Oui. Donc c'est pour ça que je dis attention. Et si c'est pas possible, ce qui peut arriver, eh bien, c'est peut-être de limiter l'accès aux données sur son téléphone au strict nécessaire. C'est pas le OK ou pas OK. C'est vraiment OK. Et dans ce cas-là, on dit on limite juste au dossier nécessaire en voyage, mais c'est tout, quoi.
Et alors, une autre très bonne pratique aussi, parce que du coup, tu parles de smartphone, c'est, je pense que c'est de plus en plus rare maintenant, les gens qui n'ont pas ça, mais d'avoir un mot de passe pour déverrouiller son téléphone.
Oui, alors un mot de passe pour déverrouiller son téléphone qui est différent de 0000.
Ou 1, 2, 3, 4.
Ou la date de naissance de son fils.
Ou la date de naissance de son fils. Alors oui, c'est sûr. Le risque, il est, à partir du moment où on vous vole votre téléphone, on peut accéder aux données, c'est ennuyeux. Maintenant, c'est pas non plus un risque qui est hyper présent. C'est vrai que c'est une bonne pratique, mais derrière, ça va juste vous protéger si quelqu'un vole votre téléphone, qu'on n'ait pas accès aux données, ce qui est hyper important. Hein. L'autre bonne pratique que moi, je vois au quotidien, et peut-être que ça s'applique à vous, c'est le transport de données sur clé USB. On se dit, par exemple, je vais partir avec ma presse, sur une clé USB, parce que je sais que là-bas, il y a un poste où je vais pouvoir diffuser ma présentation, mon dossier, etc. Et donc, les gens ont tendance à se dire, si je n'ai pas accès à tous mes dossiers, dans le doute, je mets tout sur la clé USB.
Ouais, et je
perds la clé USB. Et là, sur la clé USB, il peut y avoir des documents de présentation, donc qui sont semi-publics, on va dire, mais il peut y avoir aussi des documents plus confidentiels, comme par exemple des accès, déjà vu, mais aussi des données vraiment plus confidentielles. Moi, je vais parler de données de santé, par exemple, parce que c'est mon domaine, mais une donnée de santé sur une clé USB qui est perdue, c'est dramatique.
Mais alors, comment tu fais, alors ?
Alors, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que j'ai mis à disposition un système qui permet de créer des mini-coffres-forts dans les clés USB. C'est-à-dire qu'on peut stocker la donnée qui n'est pas confidentielle sur la clé USB comme si de rien n'était, et puis on met un petit coffre-fort avec un mot de passe, où on peut stocker des données qui sont confidentielles, elles. Donc, si on a besoin d'y accéder, on peut le faire le jour J lors de la présentation, mais si on n'en a pas besoin, on n'ouvre pas le coffre-fort et ça reste protégé. Comme ça, si quelqu'un tombe sur la clé USB, il va obtenir les données non confidentielles, et il va voir qu'il y a un coffre-fort, mais il n'a pas le mot de passe. Il ne va pas perdre son temps à essayer de craquer le mot de passe, il va effacer la clé USB et puis terminer.
Voilà. Et c'est facile à faire, ça ?
Et c'est assez facile à faire, il y a des petits outils gratuits, il y a Z qui permet de le faire. On peut également le faire, dans une moindre mesure, avec les logiciels comme WinRAR, WinZip, etc., qui permettent de faire des petits fichiers zippés avec un mot de passe. Ça peut faire office de mini-coffre-fort. C'est une solution qui n'est pas très chère et qui permet déjà de se dire que si quelqu'un tombe sur la clé, il n'aura pas accès aux données.
Je crois de mémoire que l'avantage de Z, au-delà du mot de passe, c'est aussi le chiffrement. C'est-à-dire qu'il y a un mot de passe, mais en plus, les données sont chiffrées.
Voilà, exactement. Donc, l'avantage de Z par rapport aux deux exemples précédents, c'est qu'il va chiffrer les données avec des protocoles attestés robustes, certifiés par l'ANSI, qui permettent justement de se dire, les données sont bien protégées. Ça donne une certaine sérénité quand on voyage et qu'on a des documents confidentiels et qu'on n'a pas forcément envie que quelqu'un les trouve si on perd notre clé USB.
Oui, ou alors on peut aussi ne pas transporter les documents et les rendre accessibles sur un serveur sécurisé.
Tout à fait.
Avec un navigateur, on lance une adresse internet et on va récupérer ces fichiers. C'est
exactement.
Aussi une autre pratique. Enfin, nous, typiquement, c'est ce qu'on fait. On n'a pas de clé USB à l'agence.
Oui. Tu as raison. D'ailleurs, on voit que dans les entreprises, on tend, devant le risque, à réduire l'utilisation des clés USB, voire quasiment, j'ai vu dans des entreprises où on les supprime totalement. Et effectivement, on passe ce que tu disais avec un système de partage de fichiers et on donne les accès en temps voulu lors de la présentation. Tout à fait.
Alors, juste avant de passer à la conclusion, vous l'avez dit plusieurs fois, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Ça veut dire quoi, des données chiffrées ?
Ah, alors, c'est une bonne question. Les données chiffrées, ce sont des données qui ne sont accessibles ou lisibles qu'avec un système d'authentification, un système type mot de passe, type empreinte digitale, voilà, un mode d'authentification. Et donc, si ce mode d'authentification-là n'est pas présent, on ne peut pas lire les données. Donc, chiffrer, c'est l'opération qui consiste à transformer une donnée intelligible en une donnée non lisible, si on n'a pas le code qui permet de déchiffrer la donnée.
Mais alors, du coup, c'est quoi l'inverse ?
Alors, l'inverse, c'est déchiffrer la donnée. C'est-à-dire qu'on va prendre la donnée qui est inintelligible, on va rentrer un mot de passe et on va retrouver la donnée lisible.
Dans quel cas, par exemple ? Parce que maintenant, on a des mots de passe partout, même s'ils ne sont pas sécurisés, etc. Mais du coup, dans quel cas est-ce qu'on peut avoir ça encore ?
Dans quel cas on peut avoir...
Les données non chiffrées.
Ah, par exemple, ce que je disais tout à l'heure avec l'utilisation de WinZip, par exemple, ou de WinRAR, donc c'est le logiciel de compression, les données ne sont pas chiffrées. Elles sont compressées avec un mot de passe, mais elles ne sont pas chiffrées. C'est-à-dire que l'algorithme qui permet de rendre les données illisibles n'est pas un algorithme de cryptographie éprouvé par la communauté internationale. C'est un algorithme qui permet juste, on va dire, de modifier la donnée, mais pas de la chiffrer.
Ok. Ça marche.
J'aurais juste, avant de passer à la conclusion, je suis désolé, mais parce qu'on voit des choses quand même, des fois, chez nos clients, je pense que c'est bien d'en parler, parce qu'à mon avis, ça doit rentrer dans les bonnes pratiques. On a souvent des clients, donc ils nous donnent des accès, des délégations, puis après, on arrête de travailler avec eux, ou ils arrêtent de travailler avec nous, enfin, peu importe. Et du coup, quand on leur demande, mais qui a accès à votre business manager, ou qui a accès à tel outil, ils ne savent pas. Personne ne sait qui a accès à l'information. Est-ce que dans les bonnes pratiques, il y a aussi le fait de, peut-être pas de cartographier, mais au moins de savoir qui a accès à quoi ?
Complètement. C'est-à-dire que cette notion-là, elle est hyper importante dans la gestion de l'information. Pourquoi je dis ça ? Parce que, pour vous donner un exemple on va dire de mise en œuvre de l'importance de cette notion-là, c'est que quand on fait une réponse à un incident, c'est-à-dire que quand on a un incident de cybersécurité qui est avéré, on voit qu'il y a des connexions frauduleuses qui viennent du Thaïlande, du Japon, du Canada, etc., eh bien, on va tout de suite chercher à se dire, le compte qui a été usurpé parce que son identifiant mot de passe a fuité et que des gens de ces pays-là se sont connectés, à quoi ont-ils pu avoir accès ? C'est-à-dire que nous, on doit estimer la notion d'information compromise pour savoir ce qu'on doit mettre en œuvre comme mesure de protection. C'est-à-dire, est-ce que toutes les données des comptes social media manager ont fuité, ou est-ce que c'est juste un seul ? Est-ce que tous les réseaux sociaux sont impliqués, ou est-ce que c'est un seul ? Et donc, forcément, la réponse à incident, c'est-à-dire lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y a eu vraiment une connexion frauduleuse, on sait qu'on doit changer le mot de passe sur un réseau social, ou sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et donc la réponse, elle n'est pas du tout la même. C'est-à-dire si on a un trou dans la raquette et qu'on oublie un réseau social, derrière l'attaquant, lui, il va continuer sur ce réseau social-là. Donc avoir une notion de qui a accès à l'information et quels sont les droits associés, c'est hyper important dans cette gouvernance, on peut parler de gouvernance, de la sécurité numérique des entreprises.
Ok. Et en tant qu'agence, freelance, quand on constate qu'un client ne fait pas les choses très correctement, ce n'est pas notre métier. Tu vois, je ne suis pas consultant en cybersécurité, je suis assez sensible à la question parce que je suis entouré par des gens très bien, mais ce n'est pas notre métier. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait quand on constate qu'il y a des choses qui sont vraiment pas du tout de bons réflexes, où l'hygiène est vraiment à revoir ?
Alors déjà, le premier réflexe, c'est de se dire que déjà, c'est pas notre métier. Parce qu'il y en a aussi où ils pensent que c'est leur métier, et puis du coup, ils donnent des conseils qui sont pas forcément opportuns. Et la deuxième chose, c'est effectivement de voir ces comportements pas forcément, on va dire, qui respectent l'état de l'art, et de leur dire que c'est pas que ça respecte pas les bonnes pratiques. Et voire même, des fois, de les accompagner en leur disant juste « si je peux vous donner un conseil, vous devriez mettre ça en œuvre ». Voire parfois même prescrire une solution.
Ouais.
Nous avons une solution qui permet de partager les mots de passe, utiliser notre solution.
C'est un devoir de conseil.
C'est un petit peu quand tu vas chez le médecin généraliste et qui te sculpte pour un rhume parce que tu viens, parce que t'as le nez qui coule, et qu'il te sculpte et que finalement il voit que t'as un souffle au cœur, il va pas te dire non, bah juste pour traiter le rhume, on va vous donner Doliprane, etc. Il va aussi vous dire, ah là je vois qu'il y a un truc qui va pas, je vous conseille de consulter un spécialiste qui du coup vous donnera le diagnostic précis et les bonnes mesures qui correspondent à votre contexte. Voilà, c'est exactement pareil. Vous pourriez dire, bah là, clairement, il y a sûrement une vulnérabilité ou sûrement quelque chose que vous faites pas très bien. Soit vous respectez les bonnes pratiques, et si vous voulez vous assurer avec sérénité de la cybersécurité de vos systèmes d'information ou de vos réseaux, consultez un spécialiste.
Ouais, je vois très bien, on a eu le cas récemment où on n'est pas mandaté pour gérer la maintenance d'un site web, mais on a accès au site web pour intégrer des articles qu'on rédige pour un client. Donc on est mandaté pour intégrer des articles pour le client. Et on s'est rendu compte que l'accès au back-office n'était pas du tout sécurisé, avec des choses très évidentes. Et se pose la question de, oui, mais est-ce que c'est notre rôle d'intervenir finalement sur le périmètre de l'agence qui est censée faire la maintenance ? Nous, notre philosophie, c'est ce fameux devoir de conseil. C'est pas parce qu'on vient nous voir pour un rhume qu'on va pas dire que la personne souffre d'un souffle au cœur. Mais je pense que c'est important que tout le monde ait conscience de ça et justement d'être capable de formuler quand même au moins des recommandations et d'orienter vers les bons spécialistes quand on constate quelque chose. Parce que je pense que c'est quand même aussi une forme de responsabilité et une posture professionnelle qui est hyper importante.
Et au-delà de ça aussi, ça vous permet d'avoir une relation de confiance avec vos clients, oui. Ce qui est vraiment pas négligeable. Et je prends l'exemple très récent du début du mois d'une société France Test qui agrège en fait les résultats de tests Covid de plusieurs pharmacies. Ils avaient mis en place un système de liaison avec la plateforme nationale via WordPress qui ne respectait pas vraiment les bonnes pratiques basiques de sécurité, à savoir l'énumération des fichiers, etc. Eh bien, tout d'un coup, il y a eu une fuite de données. Parce qu'on s'est rendu compte que les résultats aux tests Covid étaient accessibles depuis Internet parce que le WordPress n'était pas sécurisé. Là, si l'agence qui gérait le site avait dit « Attention, là, vos fichiers qui sont en plus des fichiers... critique
de santé, ouais,
de santé avec nom, prénom, numéro de sécurité sociale, etc., sont accessibles en ligne, faites quelque chose. Et plus on est d'acteurs investis dans cette notion de cybersécurité autour des clients finaux, eh bien, j'espère que le niveau des clients finaux va augmenter au fur et à mesure.
Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement si tu as une anecdote professionnelle à nous raconter ? T'as fait prendre conscience de l'importance du sujet du jour, donc je pense que tu dois en avoir beaucoup.
Alors, oui, il y a une première anecdote auquel j'ai pensé quand on a parlé de l'histoire d'Instagram, c'est qu'il y a très longtemps, je me suis créé un compte Instagram, comme beaucoup, pour tester et voir un petit peu quel était ce réseau-là. Et puis, je ne m'y suis pas connecté parce que ce n'était pas le réseau sur lequel je me sentais à l'aise, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'étais en voyage pour un audit de sécurité, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Et à un moment, je reçois une notification d'Instagram qui me dit « Votre compte a été piraté. » J'ai dit « Ah ouais. ?» Et en fait, c'était réel. C'est-à-dire que mon compte avait été piraté par quelqu'un qui était en Asie du Sud-Est et qui s'amusait à prendre le contrôle de mon compte Instagram. Alors oui, j'avais oublié qu'il y a beaucoup d'années, j'avais créé ce compte-là, que j'avais jamais changé de mot de passe, et que le mot de passe était effectivement le même qu'un autre que j'utilisais, et les attaquants s'en sont servis. Donc là, j'ai dit, là, je suis premier puni par rapport à des choses que je peux dire au quotidien avec mes interlocuteurs. Mais voilà, ça m'est arrivé, et donc je vois très bien ce que ça peut faire. Et c'est pas très agréable d'ailleurs comme sentiment, parce que je me souviens, dans un hôtel à Limoges, je vois le truc, vous avez été piraté, telle IP, etc., est-ce que c'est bien vous, sinon veuillez vite modifier votre mot de passe. J'étais ouf, qu'est-ce que je dois faire? Finalement, ça s'est très bien passé, parce que de toute façon, il n'y avait rien à prendre dessus, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais ça m'a un petit peu marqué, parce que c'est notre identité. Enfin, un réseau social, c'est mon nom, mon prénom, on poste en mon nom, enfin voilà, c'était pas agréable comme sentiment.
Et puis c'est l'exemple typique de je crée un compte pour tester un outil, j'utilise pas forcément à l'époque de gestionnaire de mot de passe, donc je mets le même que ma boîte Gmail, parce que c'est plus simple, c'est plus rapide. J'oublie que j'ai un compte sur ce site-là, tôt ou tard, cet outil se fait compromettre, parce que Instagram a été compromis il y a quand même pas très longtemps, Et donc, voilà, à un moment donné, je me retrouve avec une vulnérabilité que je n'avais pas forcément estimée au moment où j'avais créé mon compte, quoi.
Et c'est ça.
Ça reboucle un peu ce que tu disais depuis le début, et ça permet de bien faire comprendre que effectivement la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire que même si c'est notre métier, on a aussi des défaillances et on doit avoir cette humilité de reconnaître à un moment donné que c'est pas toujours simple et qu'il faut reconnaître quand on fait des erreurs et pour résoudre rapidement les incidents.
Exactement. Et ouais, ça m'a un peu marqué cette expérience-là. Puis juste une petite dernière parce que celle-là permettra peut-être de poser une question un peu plus large. Quand je préparais un cours justement sur les fuites de données et notamment qui peuvent être liées aux réseaux sociaux, et puis à un moment je tombe sur quelqu'un qui poste sur Twitter une photo de sa carte bancaire. Je me dis waouh, on poste sur Twitter une photo de sa carte bancaire. Et en fait, j'ai compris, c'est-à-dire que sur la carte bancaire, il y avait un chien, et en fait, elle avait utilisé un système de banque qui permet de personnaliser sa carte bancaire. Et donc, très fière de montrer ça sur Twitter, elle poste en photo la carte bancaire avec le chien, en disant « Waouh, ça y est, j'ai reçu ma nouvelle carte bancaire, je suis trop contente, etc. » Et en fait, après, je suis tombé sur un compte Twitter qui s'appelle Nid à Debit Card, et qui recense toutes les photos de carte bancaire sur Twitter. J'ai fait « Mais c'est pas possible, il y a tant que cette photo !» Et après, là, je me suis posé une question, c'était de dire pourquoi il y avait autant de photos et est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment la notion de la valeur de l'information. C'est-à-dire de la valeur de l'information par rapport à sa confidentialité. Ce qu'on peut faire avec un numéro de carte bancaire, ce qui n'est pas anodin. Et puis pour ceux qui iront voir, il y a même des photos de recto et de verso de carte bancaire.
Pratique, il y a tout.
Donc voilà, et là, je me suis vraiment posé cette question-là. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que nous, en tant que professionnels de la donnée, là, au sens général, on a cette notion de valeur de la donnée. Est-ce qu'on arrive à la quantifier et est-ce qu'on arrive à la faire comprendre aussi à nos clients? Et ça, je pense qu'il y a un véritable enjeu là-dessus.
Ouais. Vous avez 4 heures.
C'est clair. Très bien. Est-ce que tu pourrais conclure le sujet du jour, pardon, en 3 mots ou en 3 phrases, comme tu préfères?
Ok, je vais essayer en 3 mots. Le premier, c'est l'éveil. Je pense qu'il est important qu'on soit éveillé au sujet, qu'on s'y intéresse, qu'on sache comment fonctionnent les outils qu'on est amené aujourd'hui à utiliser, même s'ils évoluent très vite, qu'on soit éveillé au sujet. Je pense que ça, c'est important. Le deuxième, c'est être humble, l'humilité. C'est de se dire que c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on ne sera pas attaqué. Les attaquants, ils vont chercher à attaquer ceux qui protègent mal leurs données. Qui qu'on soit. Voilà. Donc, l'humilité, c'est important. On peut être attaqué. Et je pense que le dernier, ça va un petit peu retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la rigueur. C'est-à-dire que pour assurer un certain niveau de sécurité, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux dans la gestion des informations qu'on est amené à traiter. Et cette rigueur, elle est, je dirais, l'image de la confiance qu'on va avoir aussi avec ses clients. C'est-à-dire si vous, en tant que professionnel de la gestion des réseaux sociaux et des données qui sont associées, vous êtes rigoureux, eh bien, c'est une confiance qui va s'instaurer avec les clients. Et je pense que ça, c'est important.
Très bien. Merci beaucoup à toi.
Merci à vous.
Ah, je te remercie parce que tu reflètes très bien l'état d'esprit chez Wise Digital, donc ça me plaît.
Merci à toi d'être venu prendre la parole au micro du pod.
C'était un plaisir.
Pour nous parler de tout ça. Et puis, peut-être qu'on aura le plaisir de te recevoir à nouveau.
Ou alors d'aller à Brest.
Ou alors d'aller à Brest avec plaisir.
Je vais conclure du coup cet épisode. Je vous dis au revoir à tous les deux.
Au revoir Gwen.
Au revoir.
Au revoir à tout le monde. Et puis à bientôt pour un prochain épisode du pod. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.